Eh bien, bonjour à tous, bienvenue alors à cette présentation d'ouvrage, je crois que c'est comme ça que c'est indiqué dans le programme, où nous allons donc parler de ce livre, Alger, ville et architecture 1830-1940, avec quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns des auteurs du livre. Petit livre par la taille, mais grand par l'érudition dont il fait preuve, puisque ce livre est le résultat d'une enquête de plusieurs années dans des publications et des fonds d'archives très diversifiés, et puis aussi des promenades intensives à Alger. Et donc peut-être qu'une première question que je poserai volontiers à nos intervenants, ils diront chacun, ils se présenteront chacun eux-mêmes, mais la première question que je leur poserai volontiers, c'est voilà, au fond, qu'est-ce qu'ils savaient d'Alger et qu'est-ce qu'ils ont appris ou qu'est-ce qu'ils ne savaient pas d'Alger et qu'ils ont découvert en faisant cette enquête. Je commence par Malek. Non, Claudine. Allez, Claudine Piaton, tu te présentes.
Donc, je suis Claudine Piaton, architecte urbaniste de l'État, et donc j'ai participé avec donc 4-5 autres collègues à la rédaction de cet ouvrage. Alors, donc, comme l'a dit Mercedes, cet ouvrage est le fruit d'un travail assez long, puisqu'on a commencé à travailler en 2012. Et donc, l'objectif était de travailler essentiellement sur le 19e siècle. Et puis, finalement, on est allé jusqu'à l'entre-deux-guerres, mais bon, en sachant que je pense qu'on aurait pu développer encore sur le 19e, parce qu'on s'est rendu compte que c'était extrêmement riche et très peu étudié. Donc, l'ouvrage, vous avez quelques images qui vont défiler sur le contenu de l'ouvrage. Donc, l'ouvrage s'organise en trois parties, avec une première partie qui comprend trois textes, on va dire un peu de synthèse, l'un sur l'évolution urbaine, un autre sur les architectes et un troisième sur les styles architecturaux. Donc ensuite, l'ouvrage se présente comme une série de notices qui sont organisées de façon topographique, c'est-à-dire qu'on a proposé des promenades en suivant une organisation qui suit l'expansion de la ville. Donc la première promenade est à l'intérieur de la ville ancienne, donc la ville ottomane qu'on connaît sous le nom de Casbah. Et puis ensuite, les promenades vont progressivement s'étendre de part et d'autre de ce noyau historique. Alors, je ne sais pas si je vais... Non, je vais peut-être passer la...
Qu'est-ce que tu as appris de nouveau, peut-être du côté des typologies architecturales ou des choses auxquelles tu ne t'attendais pas nécessairement à Alger ?
Alors, il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que effectivement, l'architecture d'Alger est extrêmement riche, extrêmement variée, et surtout couvre toutes les époques. Donc, on a une espèce de sous nos yeux, donc on a une évolution des styles architecturaux, donc en partant bien sûr de l'architecture ottomane, et donc pour notre part jusqu'à l'art déco de l'entre-deux-guerres. Donc ça, c'est ce qu'on a découvert. Ce qu'on a découvert aussi, par rapport à des travaux antérieurs qu'on avait pu conduire sur d'autres villes, c'est que l'ensemble de ce bâti est très bien conservé par rapport, même s'il peut être en mauvais état, il est toujours. Enfin, on a toutes les strates d'évolution de la ville qui sont conservées, contrairement à d'autres grandes villes du monde arabe qui ont pu connaître aussi des phases d'expansion durant le 19e siècle, par exemple comme Tunis ou comme Le Caire ou d'autres villes qui, elles, conservent très peu, en fait beaucoup moins d'exemples d'architecture du 19e siècle, en tous les cas.
Malek.
Alors bonjour, Malik Chebaï.
Désolé.
Donc, Malik Chebaï, je suis architecte, je suis chercheur, je suis prof je suis maître assistant associé à l'École nationale d'archi de Paris-Belleville. Et donc, pour répondre à la question de Mercedes, donc moi je suis algérois, donc et je suis chercheur et mon terrain privilégié est Alger. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même découvert dans ces livres des choses d'une ville que je connais bien, mais je trouve que ce livre a un travail d'éveil à l'architecture ordinaire. C'est-à-dire que, en tant que chercheur, en tant que historien, on se passionne souvent pour les objets d'exception, pour les architectures d'exception, et on a tendance à laisser de côté, à la marge, des architectes qui ont fait réellement la ville. C'est-à-dire que ce livre a l'avantage de révéler des architectes qui ont beaucoup construit, mais qui ont, dont la notoriété est passée, puisqu'ils n'ont pas fait l'histoire, ils ne s'inscrivent pas dans la grande histoire de l'architecture, ou ils ne marquent pas la grande histoire de l'architecture. Donc ça, c'est ce qui était intéressant. Ça faisait aussi écho à ma propre recherche, puisque j'ai fait une thèse sur l'enseignement de l'architecture à l'école des Beaux-Arts d'Alger. Donc pas mal d'architectes ordinaires justement faisaient la formation à Alger, ne passaient pas par Paris et commençaient à travailler et passaient par différentes étapes avant de s'installer définitivement et de se rendiquer en tant qu'architecte. Donc j'en connaissais le nom, j'en connaissais le parcours à l'école, mais ma thèse, comme c'était un travail fastidieux, et heureusement que Claudine et Juliette ont été là pour venir faire ce travail, je m'étais pas intéressé forcément à leur production. J'étais pas sorti en ville parce que ça représentait un travail colossal et finalement une autre thèse et un autre ouvrage. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est aussi les perspectives de recherche qu'offre ce livre. J'ai envie de dire que le travail, il commence aujourd'hui. Parce que ce livre, à travers ses notices, en révélant des architectes, aujourd'hui, il faut réfléchir aux connexions de ces architectes-là, réfléchir à la manière dont se construit un milieu mixte, au début totalement colonial, puis local de l'architecture, et voir comment ces architectes, finalement, à côté de grands architectes qui font la notoriété de la ville et qui font les grands bâtiments de la ville, s'inspirent des formes, réinterprètent, s'approprient ces formes d'architecture. Moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant finalement dans ce livre, c'est finalement l'ouverture et la perspective qu'il offre.
Grand architecte, pour ne pas le nommer, Le Corbusier, c'est ça?
Non, pas forcément. Je pensais par exemple à un architecte qui me venait en tête, c'est plutôt Henri Petit. Par exemple, l'architecte Henri Petit, il est typique d'un architecte qui est formé à Paris, totalement métropolitain, qui arrive à Alger dans les années 1880 pour construire aux côtés, il est architecte d'opération de l'architecte de Théophile Dauphan, donc il fait l'université d'Alger, il s'installe. Et c'est un milieu qui est constitué peut-être de 4, 5 architectes des PLG. Et c'est un architecte qui officie dans le civil, donc il n'est pas un architecte militaire, et qui va construire durant une longue période, donc jusqu'à 1925, c'est l'architecte principal de la ville. Il construit les bâtiments les plus emblématiques, il construit la chambre de commerce, il construit la Madarsa d'Alger, il est la dépêche algérienne. Il est un des premiers interprètes du néo-mauresque algérois, donc il fabrique ce néo-mauresque algérois. Donc lui, c'est l'architecte qu'on connaît, pourtant dont on n'a pas d'archives, mais dont on connaît tout le parcours. Donc il s'inscrit dans différentes périodes, il produit, si on parle de typologie ou de style, bon aujourd'hui c'est difficile de cataloguer les architectes dans des styles, on sait que c'est beaucoup plus ambigu, donc il est à la fois néoclassique, architecte officiel néo-mauresque, il est parmi les premiers de l'art déco, et donc il arrive à se fondre à travers les périodes. Donc lui, c'est l'architecte marquant, mais autour de lui, il y a plein de petits architectes qui peut-être s'inspirent, où il fait école, et la question, c'est comment finalement ces petits architectes, est-ce qu'il est, parce qu'on connaît sa production graphique, est-ce que c'est entre guillemets un leader théorique ou un chef de file d'une pensée ou d'une réflexion globale? Et c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui pour aller fouiller. Aujourd'hui, bon, Le Corbusier, c'est plutôt les architectes qui ont été bien fouillés. On connaît bien l'école moderne d'Alger. Donc voilà.
Sur les, du coup, la transition est toute trouvée, me semble-t-il, puisque Juliette Huébert, dans cet ouvrage, s'est occupée des architectes, les petits et les grands. Donc peut-être, oui, un mot là-dessus et sur comment cette enquête fouillée sur les architectes de l'architecture ordinaire d'Alger renouvelle un peu l'idée qu'on peut en avoir.
Oui, donc bonjour, moi je suis Juliette Huébert et donc je suis historienne de formation et donc voilà, j'ai notamment réalisé des biographies, des courtes biographies d'architectes dans l'ouvrage. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que donc les biographies que nous on a retenues, elles sont en rapport avec les bâtiments présentés dans l'ouvrage, et on a une surreprésentation des architectes ayant fait leur formation à l'école des Beaux-Arts, mais en fait dans la ville d'Alger, c'était ces architectes formés comme ça de façon académique représentent en fait une minorité, puisque la grande majorité des bâtisseurs de la ville sont des gens qui ont des trajectoires, alors ça peut être des trajectoires familiales, c'est-à-dire avec un grand-père plus ou moins lié au bâtiment, un père entrepreneur, et puis après le fils et le petit-fils architecte, ou des gens qui se forment, qui travaillent dans l'armée, qui ont des métiers pareils, pontonniers, et qu'on retrouve 10-15 ans plus tard dénommés architectes, notamment sur les plaques qui figurent sur les immeubles, puisque du coup on a fait en fait ces images, ces architectes sont très difficiles à cerner. Leurs biographies, pour beaucoup, sont difficiles à établir puisqu'ils n'apparaissent pas dans les archives. Ils apparaissent assez peu dans les revues. Et on les retrouve d'abord par les plaques qui apparaissent sur les immeubles. Et donc, on a fait un travail important d'inventaire des plaques d'immeubles pour déjà avoir cette base comme travail. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que moi, ce que j'ai vraiment appris dans ce travail, dans cette étude, c'est cette société donc de bâtisseurs de la ville et tous ces liens. Comment cette façon dont ils entretiennent des liens. Enfin, comment dire le fait qu'ils échappent souvent à des formations classiques et qu'ils refont des groupes liés avec voilà des entrepreneurs, des constructeurs, et puis ce lien qu'ils entretiennent avec aussi des familles de commanditaires, et on retrouve souvent un architecte qui va construire pour une famille entière et donc sa production dispersée dans la ville et qui suit une même famille.
Boussad, donc, toi.
Je me présente d'abord, Boussad Haïf, du département d'architecture de l'université de Tizi Ouzou. Je suis maître de conférence et je travaille depuis de nombreuses années déjà sur la ville d'Alger. C'est une ville passionnante qui nous passionne toujours et en continu, tout au long des travaux que l'on effectue, à découvrir des choses. Et c'est vrai qu'à travers l'ouvrage, bien qu'auparavant, j'avais déjà fait une thèse sur l'architecture des années 30 à Alger. Là, ça m'a permis, avec toute l'équipe, de redécouvrir un aspect assez particulier. C'est dans le déplacement des savoir-faire, une production architecturale assez spécifique, en fait, dans le contexte algérois. Tout en ayant des modèles qui ont probablement voyagé de la métropole vers Alger, on découvre aussi beaucoup de spécificités, notamment dans l'architecture des années 30, où on voit un art déco revisité avec des nuances un peu néo-mauresques, où on voit une production en termes même d'organisation spatiale assez particulière, avec des organisations de l'espace qui sont plus spécifiques au contexte local. Et donc ce que je voulais dire aussi, c'est que derrière ces architectures, il y a des architectes, comme l'a dit Malik tout à l'heure, et parmi ces architectes, beaucoup ont en fait touché un peu à tout. Et là, c'est aussi assez intéressant de découvrir que, par exemple, que quelqu'un comme Charles Montalan, a produit de l'art déco, de l'art nouveau, du néo-mauresque, du moderne. En fait, il a traversé de nombreux courants architecturaux, et ça, c'est assez particulier. Alors, on le voit pour Alger, mais aussi, ces architectes n'ont pas travaillé qu'à Alger. Il faut savoir que dans beaucoup d'autres villes, comme Skikda, Annaba, notamment à Skikda, pour Montalan, qui est en fait natif, qui est plutôt un fils adoptif de la ville et qui a beaucoup construit à Skikda avec une multitude de styles architecturaux différents, aussi bien les uns que les autres. Alors, la particularité, c'est que derrière aussi cette production architecturale, il y a des entrepreneurs, il y a des artisans, il y a des artistes, et certains, parfois, viennent de loin. Ce qui est intéressant, tout récemment, j'ai eu l'occasion de faire une visite à Skikda, où on a retrouvé des fresques de faïence signés par les frères Chemla de Tunisie, qui ont été réutilisés par Montalan, qui leur a fait appel pour le décor de la gare ferroviaire, qui est aussi un bâtiment assez spectaculaire. Alors, pour résumer un peu, c'est que le livre qui est pour nous un travail sur Alger, c'est en même temps une balade et une découverte, donc c'est un peu un guide, mais c'est aussi un ouvrage qui a un côté scientifique très pointu, parce qu'il se base sur des documents archivistiques qui existent en France, mais aussi en Algérie, et aussi dans la fameuse revue Chantier que probablement certains d'entre vous connaissent, et qui est une source pour la documentation de l'architecture qui est vraiment très intéressante. Alors, il y a aussi le côté, donc ce côté un peu recherche, méthode, qui est, je dirais, assez poussé dans cet ouvrage et qui n'est pas neutre par rapport à certains aspects. Bon, je pense que je pourrais revenir sur d'autres points pour ne pas monopoliser la parole. Je te redonne la parole. Merci.
Je crois que Juliette veut ajouter quelque chose.
C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais un autre point important qui nous a marqué et qui avait été abordé aussi par Malik dans sa thèse sur les élèves architectes de l'École des Beaux-Arts d'Alger, c'est que dans tous ces noms d'architectes, donc là on en a 93, il n'y a que des Européens et il n'y a pas d'architectes algériens voilà, parmi eux. Et ça, c'était une découverte assez frappante, puisque ce n'était pas le cas. On avait auparavant effectué une étude sur Tunis et ce n'était pas le cas. Et également pour d'autres pays, type l'Égypte ou une étude qui a été faite sur le Vietnam, on n'a pas que des Européens qui construisent. Donc là, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et parmi ces Européens, en revanche, il y en a des architectes qui viennent de familles d'origine espagnole, italienne ou française, donc maltais peut-être aussi. Et voilà, c'est assez, c'est pas uniquement français, mais du coup, il y avait cet aspect qui nous a assez frappé.
Peut-être une autre question, alors là, plus sur le travail de terrain. Moi, on m'interroge souvent en me disant... Ah, vous allez à Alger, mais c'est terrible, mais vraiment, vous êtes sûr, mais vous pouvez, mais comment ça se passe dans la rue, mais vous êtes sûr? Et je dis, je sais pas, oui, j'ai l'impression, dans mon équipe, ils y vont très souvent, et ça a l'air de se passer très bien, donc est-ce que peut-être, Malik et Boussad, je vais pas vous poser la question de comment vous vous baladez dans les rues d'Alger. Voilà. Mais peut-être Claudine et Juliette peuvent dire quelque chose là-dessus, parce que c'est vraiment une question qu'on me pose de manière récurrente.
Effectivement, les préalables sont peut-être un peu difficiles parce qu'effectivement, il faut faire toutes ces demandes de visa, ces invitations. Mais le travail sur le terrain est extrêmement facile et je pense beaucoup plus facile justement qu'en France. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire des études d'enquête dans des quartiers de Paris, par exemple, où on a très rarement accès au hall d'entrée. Où dès qu'on s'intéresse à un bâtiment, on est questionné par des gens qui sont très méfiants de ce qu'on va faire. Et à Alger, on a systématiquement été invité à entrer dans les halls d'entrée. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Et on a eu beaucoup de discussions avec les habitants sur la façon dont ils occupent l'immeuble, aussi sur tous les problèmes qu'ils rencontrent dans l'entretien des ascenseurs, etc. Mais en tous les cas, le travail a été très intéressant par rapport justement à ce qu'on a pu apprendre des habitants. Parfois, c'est les habitants qui nous montraient les plaques d'architectes, qui sont parfois difficiles à voir, dissimulées sous d'autres plaques ou sous des devantures. Et donc, ça a vraiment été... Le travail de terrain n'a pas été seulement un travail d'observation, mais aussi de discussion avec les habitants.
Juliette, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus?
Confirmer ce que dit Claudine. C'était un travail extrêmement agréable à faire parce que très simple. Voilà, on a été accueilli très généreusement. Et puis, en effet, il y a eu beaucoup de discussions avec les habitants que moi, j'ai noté soigneusement en me disant, voilà, les sources orales, elles valent ce qu'elles valent. Et en fait, souvent, les recroisant avec les archives et la documentation, on a bien constaté que à chaque fois les habitants nous mettaient sur la piste en fait. Et puis l'autre chose qui nous a frappé, c'est que souvent il y avait des groupes comme ça qui traînaient devant des immeubles et la dernière chose à laquelle on s'attend, c'est qu'ils aient une vraie réflexion sur les lieux où ils étaient. Et souvent sur leur téléphone, ils avaient une photo scannée de l'immeuble, de la rue, et voilà, et on échangeait à partir de ça. Donc c'était voilà, pour nous c'était inattendu et très enrichissant.
Ça, peut-être, et Malik, avec vos étudiants sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils s'amusent sur le terrain ou pas?
Alors, c'est clair qu'il faut déjà apprendre aux étudiants à s'intéresser à cette architecture. Mais une fois qu'ils sont dans le bain, ils sont très vite passionnés parce qu'ils découvrent la richesse derrière les façades qui sont parfois en mauvais état, dans de nombreux cas malheureusement. On découvre des halls d'entrée somptueux, même s'ils ne sont pas entretenus, mais on découvre des décors particulièrement intéressants, etc. Et même, ce que je disais tout à l'heure, des typologies parfois inattendues. Parce que derrière des façades assez cossues, on découvre des organisations autour de formes de cours qui sont soit recouvertes avec une espèce de verrière, soit ouvertes, parfois des décors avec un statuaire, etc. Donc il y a énormément de choses qu'ils découvrent, effectivement. J'ai en mémoire la visite qu'on a fait il y a maintenant 2 ou 3 ans de l'église du Sacré-Cœur à Alger, qui est un bâtiment assez particulier, il faut le dire. Là, les étudiants étaient vraiment stupéfaits. Ils ne voulaient pas en sortir, en fait. Voilà, donc il y a toutes ces choses qui font qu'on se passionne pour la ville. Après, il faut dire aussi que le paysage urbain de la ville est assez particulier, il est spectaculaire. Mmh. Donc on ne peut pas être passif devant une ville comme Alger. Donc c'est vrai que ça accroche, voilà.
Malik, l'Algérois.
Alors bon, moi mes étudiants ils sont à Paris, donc ça va être difficile d'en parler. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est dans la démarche, c'est qu'effectivement, il est plus facile d'accéder finalement aux immeubles et de partir finalement d'une étude avec les outils de l'architecte. Donc on en parle souvent de partir du relevé de photos, de relevé de plaques, etc. Et ensuite essayer de reconstituer l'histoire à partir des informations qu'on glane sur le terrain. Ce qui est le plus difficile à Alger, je pense que Bossad ne me contredira pas, c'est plutôt accéder aux archives écrites qui là il y a de grands freins de la part des administrations qui gèrent ces archives, mais c'est plutôt parce que les archives ne sont pas cataloguées, qu'on a peur de ce qu'on peut découvrir, qu'il y a une confusion entre des archives qui peuvent concerner des immeubles, des bâtiments, des équipements et des archives qui sont peut-être un peu plus sensibles, qui relèvent de l'histoire complexe et compliquée qu'ont la France et l'Algérie. Donc effectivement, dans cette confusion là, on n'a pas accès aux archives, et je trouve que justement la démarche qui est intéressante dans le livre, c'est la manière dont on a contourné ce problème là en allant directement sur une investigation qui se passe sur le terrain et finalement en délaissant tous les problèmes qu'il y aurait eu avec les archives et l'accès aux documents et surtout à des documents. Moi, il m'est arrivé d'être aux archives nationales algériennes et finalement de jouer à la pochette surprise, ça veut dire que je savais pas exactement ce que je cherchais, enfin je savais ce que je cherchais, mais ce que j'allais y trouver, que finalement ce que je cherchais se construisait en soi avec ce que je trouvais. Donc effectivement, c'est les grands freins, je pense que c'est ce qu'il va falloir abattre, et c'est ce qui va, si on veut aller encore plus loin, c'est vraiment dresser des coopérations, trouver un moyen de sensibiliser les administrations, parce que voilà, il y a des bâtiments qui ont été commandés par des coopératives, par des agences, par des groupements, et qu'on peut trouver. Moi, j'ai trouvé dans les archives voilà, des villas qui étaient construites, par exemple, sur les hauteurs de la ville à Hydra, et où il y avait voilà, des lotissements et où on avait les plans qui étaient réalisés par tel ou tel architecte. Et il y a des choses. Et voilà, c'est ce qui est passionnant, finalement, dans Alger, c'est que voilà, l'Algérie est indépendante depuis 1962, mais il reste encore beaucoup à accomplir. Et finalement, les chercheurs de la première génération qui avait une chance incroyable. C'est-à-dire que si on était chercheur dans les années 70 et 80 avec la conscience qu'on a aujourd'hui, on aurait pu interviewer les acteurs qui étaient expatriés dans le sud de la France et avoir cette information directe. Et on n'a pas cette information directe. Donc on a laissé un petit peu comme l'Atlantide s'est submergé. Et là, on est en train d'essayer de retrouver par fragments. C'est un travail archéologique. Et ce qu'elles ont fait, c'est relève un petit peu presque de l'archéologie, aller retrouver ces bouts de plaques. Voilà.
Donc, avant d'ouvrir la discussion avec la salle, peut-être une dernière ronde de questions, puisque vous revenez tous, oui, de la présentation du livre à Alger, puisque c'est une coédition. D'abord, je dois dire qu'effectivement, c'est une coédition. Ce livre est une coédition entre les éditions Honoré Clair et les éditions Barzac, basées à Alger. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que le livre avait très bien marché. À Alger, vous l'avez donc présenté il y a une quinzaine de jours, donc peut-être une première impression de cette présentation, de comment ça s'est passé, et puis après on ouvrira les questions avec la salle.
Oui, alors effectivement, on l'a présenté le 5 mai, je crois, à l'Institut français. Alors effectivement, il y avait beaucoup de monde, puisque la salle était comble, je crois qu'on a même refusé des entrées. Et le livre, effectivement, se vend très bien. Donc ça, on a eu les chiffres de l'éditeur Barzac. Je crois qu'il y a eu 1200 exemplaires vendus à Alger, c'est-à-dire beaucoup plus qu'à Paris ou en France, en tous les cas. Mais c'était aussi l'intérêt de ce livre. C'est-à-dire qu'on parle d'une ville, et je pense que les gens qui sont intéressés, c'est les gens qui habitent dans cette ville et qui ont envie de... Voilà, qui s'intéressent tout simplement à leur environnement immédiat. Donc, effectivement, apparemment un grand intérêt. Alors, beaucoup de questions, effectivement, sur la dimension patrimoniale, quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé dans notre livre. C'est-à-dire que nous, on a essayé d'écrire l'histoire de ces bâtiments, donc en essayant d'être le plus précis possible, en essayant d'identifier les commanditaires, les architectes, les entrepreneurs, et en essayant de donner des dates de construction, enfin de les replacer dans l'histoire des styles architecturaux, en faisant des comparaisons avec ce qui se construisait à la même époque en France, en essayant de voir si justement on avait des propositions avant-gardistes ou au contraire très conformistes, parce qu'on a toujours tendance à dire que les colonies étaient le laboratoire de l'architecture. Alors on a essayé plutôt de s'intéresser à toutes ces questions, et on n'a pas du tout abordé la question patrimoniale. Et en revanche, les questions qu'on a eues donc à Alger étaient essentiellement sur cette dimension patrimoniale. Donc on reviendra peut-être après sur justement les réponses qui ont été données.
Malik.
Alors moi, j'ai une anecdote intéressante au sujet de la diffusion des livres. Bon, moi j'ai un rituel quand je vais à Alger, un rituel qui remonte à l'enfance, c'est que je fais toutes les librairies de la rue Michelet. Donc moi, c'est comme ça que je me suis approprié.
La rue Michelet.
La rue Michelet. C'est comme ça, c'est la rue Didouche-Morad actuellement, et c'est comme ça que je l'ai connue. Non, mais c'est vrai qu'elle c'était la rue Didouche-Morad, mais dans la mémoire collective, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc j'ai ce rituel de faire les librairies. Donc moi, c'est comme ça que je me suis approprié la ville. Ça remonte à mon enfance, mon adolescence, tout mon argent de poche passé dans les livres. Et donc quand je retourne à Alger, je vais dans toutes les librairies. C'est un petit peu une veille et une séquence souvenir, peut-être émotion. Mais donc je vois tous les livres qui sont diffusés. Et donc justement, je me suis intéressé aux livres, et il y a la libraire qui m'a dit que le livre, il y avait une dame d'un organisme qui en avait acheté 100 d'un coup pour pouvoir l'offrir. Donc elle avait trouvé le livre formidable pour pouvoir l'offrir, et en fait ça devient un livre de presque de prestige, ou un livre qui diffuse, en fait, de fierté. Un livre de fierté. Vous savez que bon, les gens du Sud sont très fiers. Henri Comasès a chanté les gens du Nord, mais les gens du Sud ont cette particularité-là. Et je pense que c'est une volonté. Il y a à la fois ce livre, il y a une dimension importante d'éveil, de conscience patrimoniale. Donc parce que ces gens traversent la ville, regardent ces immeubles, mais ne le regardent pas comme une ville coloniale ou comme un legs colonial. Et il y a cette diffusion, cette dame qui achète d'un organisme qui veut l'offrir, ça devient regarder comme notre ville est belle, regarder ce qu'il y a dans notre ville et regarder ce qu'on a comme beau bâtiment. Donc voilà, Alger, peut-être sous des dehors, peut-être qui peuvent paraître parfois sales, parfois crasseux, parfois bon, ça dépend des quartiers et des environnements. C'est surtout des immeubles qui ont été... ces immeubles-là qu'on étudie, et c'est vrai qu'ils sont en bon état, mais en même temps, ils ont été délaissés par l'État, en fait, par l'État. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'en 62, il y a eu une nationalisation des syndics, des immeubles, etc. Et petit à petit, les syndics ont disparu. Jusqu'où, dans les années 80, c'était l'État qui était en charge de la rénovation, de la restauration. Donc c'était quelque chose d'étatique de s'occuper. Avec les crises financières, l'État s'est désengagé et a incité à créer un certain nombre de lois en incitant les copropriétaires à créer, justement, à organiser la prise en charge de ces immeubles, etc. Mais quand on s'est habitué pendant 30 ans à ne pas payer de charges d'immeubles, difficile d'organiser la collecte des charges. Donc ces immeubles sont tombés petit à petit dans une forme de laisser-aller. Bon, ça dépend ensuite de la conscience qui peut exister dans ces immeubles-là. Mais ce que je trouve justement d'intéressant dans ce bouquin, c'est que finalement, ça redonne presque de la beauté à l'ordinaire et à l'existant.
Ils auront envie de payer leurs charges ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si Claudine et
Juliette vont toucher un pourcentage.
Voilà, pour voir.
Boussad, la présentation à Alger.
Oui, alors moi je trouve que la réception a été très, très positive. On a eu du monde, comme l'a dit Claudine, même beaucoup de monde. Et les questions étaient variées, étaient diverses. Hein. Certains voulaient savoir pourquoi on n'avait pas travaillé sur tel bâtiment, telle rue, leur immeuble où ils ont habité. Évidemment, on a des limites. On aurait voulu faire beaucoup plus de choses, mais on a des limites éditoriales. Donc on est tenu quand même de respecter un certain nombre de pages, etc. Donc il est difficile de faire une présentation de tout Alger, faire un travail exhaustif. Je pense que c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Il pourrait y avoir un Alger 2, 3, 4, etc. Hein, et ça pourrait aller très loin. Tout comme il pourrait y avoir d'autres ouvrages sur d'autres villes d'Algérie qui sont tout aussi riches et intéressantes. Alors, sur les questions, effectivement, beaucoup ont touché du doigt, ont abordé la question du patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, la question se pose, peut-on parler de cet héritage comme faisant partie de notre patrimoine ? Donc, c'est une question d'actualité. L'ouvrage n'a pas la prétention d'aborder la dimension patrimoniale, même si elle est implicite. Mais en même temps, c'est un ouvrage sur l'histoire de l'architecture. Donc, moi, je pense que c'est un préalable pour passer à une étape suivante qui serait celle de la patrimonialisation. Donc,
mais est-ce que concrètement, par exemple, puisque c'est des débats qui existent à Paris, mais qui sont peut-être très franco-français, est-ce qu'on peut dire que l'architecture coloniale, c'est de l'architecture coloniale en Algérie, c'est de l'architecture algérienne maintenant ? Elle appartient aux Algériens.
Moi, je pense qu'elle est admise en tant que telle, même si son histoire nous ramène à l'histoire de l'architecture française aussi. Mais cet héritage est accepté en tant qu'architecture algérienne à 100%. Hein. Moi, je le dirais, tout au moins, je le ressens comme ça. Et je crois qu'il n'y a plus... Je pense qu'on a dépassé l'étape du tabou parce que le lien avec l'époque coloniale, etc. Il y a eu une époque coloniale, il y a eu certainement une histoire coloniale très dure et très difficile qui a engendré beaucoup d'injustices, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive à faire la distinction entre une production architecturale qui a été produite à un moment donné, il se trouve que c'est durant l'époque coloniale, et l'histoire de la colonisation qui, elle, aborde un autre volet politique, idéologique. Je crois qu'on arrive à faire la part des choses et à admettre cet héritage, j'ai même dit patrimoine, hein, comme étant une partie du patrimoine algérien.
Ouais. Juliette, la présentation à Alger. Retour d'expérience.
Alors, donc, à Alger, on a effectué deux présentations. Une à l'Institut français assez générale, vraiment une présentation de l'ouvrage avec l'éditeur algérien, et une autre qui était plus plus pointu, enfin, en tout cas, sa prétention était de spécialiser. Et du coup, le retour, enfin, moi, ce qui m'a assez frappé, c'est que au cours de les retours que j'ai eu pour la présentation plus spécialisée, c'était que parfois notre objectif, en tout cas pour une partie du public, n'était pas clair parce que Voilà, qu'est-ce qu'on cherchait à faire avec cet ouvrage? Et voilà, là, nous, notre réponse est retracer l'histoire de cette ville. Et en effet, derrière, on ne cherche pas à préconiser des interventions. Il n'y a pas de dimension de protection du patrimoine derrière ça. Et c'est vrai, comme il a été dit, on a eu beaucoup de questions là-dessus sur notre positionnement par rapport à l'état du des bâtiments. Qu'est-ce qu'on pensait de tout ça? Et voilà, pour l'instant, nous, on se garde bien de penser quelque chose de tout ça. Et du coup, voilà, cette petite ambiguïté. Et c'est vrai que l'ouvrage qu'on a fait, ça dessine l'histoire d'Alger, une histoire d'une ville en fait européenne, construite pour des Européens et maintenant habitée depuis l'indépendance, c'est aux Algériens. Et donc, nous, on n'est pas du tout sur ces questions de protection du patrimoine.
Vous voulez rajouter un mot? On peut peut-être on peut passer à des questions de la salle. Voilà, vous avez la parole.
Allô? Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je voudrais faire simplement le parallèle entre Alger et puis la ville du Caire, que je connais bien. Ce qui m'a frappé au début de la présentation, c'est que le patrimoine algérien, enfin architectural européen, est bien conservé, contrairement à Tunis et au Caire. Alors j'aurais voulu savoir pour quelles raisons ce patrimoine est mieux conservé, étant donné que l'Algérie était quand même un pays socialiste, que pendant un certain temps, ça a été, comme j'ai compris, entretenu par l'État. Ensuite, ça a été habité par des populations donc indigènes, non européennes, qui ne connaissaient pas ce mode de vie. Comment ils se sont appropriés ce type d'immeuble? Comment ils ont réussi à le conserver? Alors que, parallèlement au Caire, par exemple, l'État socialiste aussi n'a pas entretenu, c'est vrai, n'a pas pris à sa charge l'entretien de ces immeubles-là, mais par contre, a bloqué les loyers en 1965. Et donc les loyers aujourd'hui qui sont payés par les locataires sont les mêmes loyers en livres constantes que de l'année 65. Donc les propriétaires n'arrivent pas à entretenir leurs immeubles parce qu'ils touchent des centimes et aucun moyen naturellement de évacuer ou de récupérer les appartements. Les bails sont pratiquement des bails à vie et même transmissibles à leurs descendants. C'est comme c'est style de loi 48, mais transmissible à la deuxième génération. Donc, pas d'entretien des immeubles qui sont délabrés. Et puis, deuxièmement, ces immeubles européens ont été habités par des populations venant plutôt de provinces ou de villages et qui ont importé leurs habitudes de leur contrée dans des villes modernes européennes. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à s'approprier de la manière dont ça a été conçu, ce type d'immeuble-là. Donc un délabrement total. Maintenant, l'État essaye de conserver certains quartiers du centre-ville pour, disons, classer quelques immeubles qui ont un cachet architectural pour les entretenir, les rénover et les ravaler. Comment Alger, elle, a pu s'en sortir? Et si, est-ce que c'est en plus une expérience algérienne qu'on peut retrouver aussi à Constantine, à Oran, ou est-ce que c'est propre à Alger seulement? Voilà le mystère. Je voudrais bien savoir comment vous êtes sorti.
Juste peut-être un mot avant de passer la parole à Claudine pour dire que c'est la question du contrôle des loyers, c'est une question compliquée parce que c'est à la fois ce qui fait que les immeubles ne sont pas entretenus, donc se dégradent, mais c'est aussi ce qui fait qu'on ne les détruit pas puisque ça ne sert à rien de construire de nouveau puisque de toute façon les loyers seront contrôlés. Donc c'est aussi ce qui gèle la propriété. Donc c'est une histoire compliquée, mais je vais laisser Claudine répondre pour ce qui est d'Alger.
Alors moi, j'ai pas forcément des explications très précises, mais en tous les cas, une donnée par rapport à ce que je connais du Caire et donc ce que j'ai trouvé à Alger, on a une très grande densité. C'est-à-dire que tout le centre-ville est occupé par des immeubles de rapport de 4 étages, 5 étages, alors que, en tous les cas, les modifications au Caire ont été déjà opérées sur tous les secteurs qui étaient occupés par des villas. C'est-à-dire systématiquement, les villas ont été rasées, remplacées par des immeubles de 10, 15 étages, etc. Donc je pense que la densité d'Alger l'a déjà protégée par rapport à la spéculation foncière. Donc ça, c'est peut-être un élément d'explication. Après, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai qu'on n'a pas travaillé forcément là-dessus. Et je crois qu'à Tunis, c'est un peu pareil. Ce sont d'abord les secteurs de villas qui étaient dans le centre qui ont été les plus démolis, en tous les cas.
Une autre question, peut-être ?
Oui.
Alors, avant de poser la question, alors, peut-être
pour
Malik
compléter,
voulait dire
pour compléter un petit peu la réponse de Claudine, ce qui se passe déjà à Alger, c'est que bon, l'État, il y a eu ce qu'on a appelé les Européens d'Algérie ont fui l'Algérie en laissant leur bien vacant. C'était le premier qui rentrait dans le bien, qui s'appropriait l'appartement, qui installait sa famille, etc., qui a essayé ensuite pendant des années de légaliser ou d'obtenir un acte de propriété. Par rapport aux organismes qui avaient les HBM, les HLM, etc., l'État algérien s'est substitué donc à ces organismes-là, donc est devenu propriétaire de ce bien. Donc il n'y a pas eu un contrôle des loyers au sens strict, mais les loyers étaient dérisoires et correspondaient au niveau de vie des Algériens de l'époque. Donc jusqu'aux années 84, je crois que c'est cette période-là où il y a un désengagement, c'est l'État qui entretient les immeubles. Donc 84-2017, ça va, on n'a pas 3 siècles de distance par rapport au si vous voulez, entretien. Ensuite, il y a un élément de réponse que j'ai envie de trouver dans la manière dont un architecte qui s'appelle Louis Miquel, qui a construit l'immeuble Aérohabitat à Alger, il avait écrit un texte sur un essai d'urbanisme méditerranéen où il analysait un petit peu le comportement du méditerranéen. Et son analyse, c'est que le méditerranéen, quand il est à l'intérieur de chez lui, c'est extrêmement propre. Ce qu'il laisse à l'abandon, c'est l'espace public. D'accord. Donc il avait établi un texte comme ça, bon, une logique de, il était plus contre les bars, etc. Donc je pense que les immeubles sont bien entretenus aussi parce que les habitants ont toujours veillé. Il y a toujours eu, moi, dans n'importe quel immeuble à Alger, il y a toujours eu une femme de ménage qui passe, je ne sais pas par qui elle était payée, mais les immeubles ont toujours été entretenus à Alger. Donc voilà. Donc. Les ravalements de façade, il y en a pas. C'est l'État qui le fait de manière périodique parce que, en ce moment, il y a des ravalements de façade au niveau d'Alger parce que ça dépend Alger la Blanche, ça dépend du prestige de la ville et on a envie que ça rayonne. Donc à chaque fois qu'on recevait un président, il y avait une visite officielle sur le trajet, pareil, on faisait un ravalement de façade et ça continue et périodiquement. La wilaya, donc ce qui correspond au département ou gouvernement, organise des ravalements de façade. Donc ça, c'est offert par la ville quand ils ont les moyens. C'est comme ça.
Peut-être une autre question.
Oui, mais justement, moi, je voulais rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure. Quand je vous ai écouté, j'ai été surprise d'entendre dire que à Alger, le patrimoine, en tous les cas, les immeubles étaient bien conservés, et notamment par rapport à Tunis, etc. Je connais assez bien Alger, mais encore mieux Tunis. Et ma surprise à chaque fois que je vais à Alger, c'est justement de constater l'état de dégradation de ce patrimoine architectural. Alors, peut-être que en écoutant la réponse que vous avez faite, en fait, ce que vous avez peut-être voulu dire, c'est qu'ils étaient encore debout. Et c'est peut-être ça que vous appelez bien conservé. Et qu'effectivement, il y a eu peut-être moins de démolition ou moins de surélévation, parce que ce qui se passe à Tunis, c'est ce qui était avant des banlieues, avec les quartiers de villas qui se sont effectivement surélevés. Mais au niveau du patrimoine du centre-ville et de l'hypercentre de Tunis, qui est donc pratiquement de la même époque l'Alger, un petit peu plus tardif, les immeubles sont certainement globalement, je dirais, beaucoup mieux conservés, notamment dans les intérieurs. Parce qu'à Alger, il y a le problème des façades qui a été soulevé, qui sont extrêmement dégradées, mais il y a aussi à l'intérieur des immeubles, l'état des cages d'escalier, des ascenseurs, de certains couloirs de circulation, etc. Donc j'ai été vraiment surprise en vous entendant parler d'immeubles bien conservés. Bon, la deuxième remarque que je voulais faire, c'est à propos des archives. Vous avez évoqué le problème des archives à Alger. Bon, alors peut-être que ça a beaucoup changé. Mais moi, j'y ai travaillé il y a 15-20 ans environ, et aux archives de la wilaya d'Alger, j'y ai trouvé énormément de choses, et elles sont classées. Alors, peut-être que les choses ont changé depuis, mais en tous les cas, c'est une mine, les archives de la wilaya. Je ne parle pas des archives nationales, je parle des archives de la wilaya d'Alger, ce qui est un petit peu, peut-être, ce qui est différent, je pense. Et puis, la troisième remarque que je voulais faire, comme on a beaucoup évoqué le problème de la patrimonialisation, alors là, excusez-moi, je vais faire un petit peu publicité, mais justement, nous organisons à l'automne, en octobre, à la mi-octobre, à Tunis, un colloque qui s'appelle « Les patrimoines en péril au Maghreb, action publique et politique de préservation ». Voilà. Alors, pour les gens que ça peut intéresser, je prendrai vos coordonnées, je vous enverrai l'appel à communication. Nous les recevons jusqu'à dans 2 jours. Mais bon, on accordera peut-être un petit délai dans ce cas-là. Voilà, je vous remercie.
Claudine ou Malik, vous voulez...
Je commence juste. Effectivement, quand on dit bien conservé, ça veut dire non démoli. D'accord. Voilà. Alors, donc, ça veut dire que... Parce que... Enfin, en tous les cas, au Caire, c'est irréversible. Les immeubles, les villas sont démolies. À Alger, en tous les cas, les immeubles sont debout. Alors, pas forcément très bien entretenus, vous l'avez dit, mais voilà.
Mais ça dépend aussi, si je puis me permettre, par rapport à quoi on compare. Hein. Je veux dire, voilà, c'est, on a connu des situations où c'est encore plus dégradé. Donc finalement, quand c'est debout, que c'est d'origine, que ça n'a pas été totalement entresolé, je sais pas quoi, surélevé, je sais pas combien de fois, on se dit que, bah voilà, au moins c'est lisible, c'est là, et voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a le ravalement des cénales, hein, on est bien d'accord.
Je voulais juste rajouter un petit point parce qu'effectivement, l'intérêt à Alger, c'est que les édifices, les immeubles sont toujours là. Alors, il y a eu quelques années en arrière la démolition du fameux bâtiment La Parisienne que tout le monde connaît, et il y a eu vraiment une mobilisation contre sa démolition. Il y a eu une conscience, on va dire, patrimoniale qui existe réellement parce qu'on a tout fait pour que ce bâtiment ne soit pas démoli. Évidemment, le promoteur et tous les acteurs en place ont eu toutes les autorisations parce que ce bâtiment menaçait ruine, menaçait de s'écrouler. Bon, après, c'est l'argument majeur qu'on met en avant et qui est incontournable. Mais voilà, par rapport à la destruction d'un immeuble, il y a eu quand même une très, très forte mobilisation pour essayer de stopper un peu les dégâts. Voilà. Donc, c'était juste un petit point que je voulais rajouter par rapport
Sinon, pour les archives de la wilaya, effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment les dossiers de permis de construire. Donc qui était très important. Moi, je sais plus, j'ai plus fait de tentatives depuis un certain nombre d'années, mais il y avait un responsable qui avait un pouvoir de rétention extraordinaire. Donc maintenant, je sais pas. Alors, est-ce que c'est toujours le cas?
Je crois qu'ils ont tous les trois anecdotes à raconter là-dessus sur les archives de la wilaya.
Le fameux monsieur a pris sa retraite, il a été remplacé et c'est pire, voilà. Non, mais il ne faut pas être aussi défaitiste parce qu'effectivement, aux archives nationales, l'accès est tout à fait possible. Après, pour les étudiants qui viennent de France, il faut évidemment faire une demande via le service culturel de l'ambassade d'Algérie en France pour pouvoir y accéder. Mais autrement, c'est tout à fait possible d'y accéder et l'accès est relativement facile. Après, évidemment, pour la reproduction de certains documents, parfois, on vous demande une autorisation. Mais voilà... L'accès, la consultation des archives, c'est pas uniforme, c'est pas homogène, donc il y a certains services où on peut facilement accéder. Effectivement, les archives départementales, la wilaya d'Alger, où il y a tous les anciens journaux, toutes les anciennes revues, etc., c'est facile d'accès et c'est vraiment un centre de grande qualité.
Les permis de construire, Juliette?
Voilà, avec Claudine, on a essayé de consulter les permis de construire et c'est vrai qu'on a, voilà, on nous a renvoyé à... On s'est baladé dans Alger et on a en effet passé 2 jours dans la salle où on a pu voir toutes les revues qui est conservées, ce qui était très intéressant parce que on les trouve pas toutes en France, mais on a fini par abandonner et voilà, trouver d'autres méthodes pour documenter nos bâtiments.
D'autres, oui, oh là, plein de, oh là là. Eh ben, alors, si je puis me permettre, pas de questions trop longues, essayez de concentrer la question parce que je vois qu'il y a pas mal de mains qui se sont levées.
Entendu. Merci pour votre présentation et pour votre ouvrage. Donc, en tant qu'Algéroise, j'espère que ça va alimenter le débat à Alger sur justement les questions de patrimoine. Alors, sur cette question du patrimoine, justement, je voulais savoir, donc, est-ce que vous avez écho d'un développement de mécénat privé pour justement réhabiliter le bâti existant? Je sais qu'il y avait eu des initiatives au niveau de la Casbah. Le bastion 21, je me demande s'il y avait aussi des fonds privés qui ont contribué aussi à la réhabilitation. En notant aussi que la particularité d'Alger, c'est que c'est situé en zone sismique. Il y a eu les inondations de Bab el-Oued donc récemment. Donc c'est voilà, il y a une fragilité aussi de ce patrimoine qu'il est urgent effectivement donc de conserver, de réhabiliter. Merci.
Boussa, un petit élément de réponse.
Oui, bon, je peux peut-être pas dire grand-chose sur le mécénat, mais j'en ai entendu parler. Alors concrètement sur le terrain, je ne pourrais pas apporter de réponse, je vais être honnête. Par contre, du point de vue des travaux qui sont lancés, qui sont actuellement en cours, il y a un projet qui est cofinancé par l'Algérie et l'Union européenne, et c'est un programme patrimoine qui aborde justement dans l'un des volets concerne le patrimoine architectural, immobilier d'une façon générale. Alors, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment pour faciliter la patrimonialisation, c'est-à-dire la mise en place d'un système de fiches, etc. Tout ce travail est en cours, il est très, très avancé, il est en cours de finalisation, donc il est en train de se faire sur 12 wilayas pilotes, c'est-à-dire que le ministère a choisi 12 wilayas pour essayer d'expérimenter un peu ce système de fiches et de banques de données. Il y a même un logiciel qui est mis en place pour justement gérer cette base de données. Alors, l'autre aspect qui peut être aussi intéressant pour nous, parce que l'un des volets justement de ce programme patrimoine concerne à organiser plutôt un atelier sur l'architecture des 19e et 20e siècles pendant une semaine. Donc, c'était des cours de formation pour des experts juniors qui consistaient justement à entraîner tous ces jeunes à identifier des édifices de la période 19e, 20e. Et quand on parle de 19e, 20e, il y a bien entendu la période coloniale, mais aussi la période après l'indépendance, qui n'est pas non plus négligeable en termes de production, notamment avec les œuvres de Pouillon, d'Oscar Niemeyer, etc. Voilà.
Une autre question.
Bonjour. Ben, déjà, merci pour la présentation. Elle était quand même sympa, il faut le dire. Et puis, j'avais une petite question d'ordre un peu général en architecture. Bon, moi, je suis médecine, je ne vais pas avoir la prétention de connaître grand-chose, mais c'était juste pour essayer de faire le lien avec ce que je savais déjà. Est-ce que, ou plutôt, je voudrais dire, comment vous placez l'architecture en la comparant avec d'autres arts, par exemple les arts littéraires, avec est-ce qu'il y a des mouvements, est-ce qu'il y a des chefs de file, est-ce qu'il y a des... Genre, comment l'architecture a évolué, ou, je ne vais pas dire non plus depuis le début du temps, mais genre pour le siècle dernier, surtout depuis les années 1800, comment l'architecture a évolué, surtout à Alger? Est-ce qu'il y a eu plusieurs mouvements et comment ça a évolué de manière générale? Merci.
Claudine. Ah oui, c'est pour Claudine, ça. C'est un des objectifs du livre. Il faut l'acheter. Hein. Mais en Algérie, oui. c'est voilà.
Ben non, et oui, effectivement, on a des styles architecturaux qui en fait sont calés sur ce qu'on retrouve à une échelle internationale. Hein. Donc on a les premières constructions sont de style néoclassique, donc elles s'inscrivent encore dans cette architecture du tout début du 19e et de la fin du 18e. Et puis ensuite, on a effectivement une grande période, on va dire, éclectique. Alors certains styles sont moins représentés, c'est par exemple l'art nouveau est très peu représenté à Alger, alors qu'il l'est beaucoup en Tunisie. Donc notre collègue donc Thierry Lochard, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, s'est particulièrement intéressé à l'art nouveau justement, et je pense qu'il prépare même un article où il va essayer de voir pourquoi justement il y a peut-être moins d'art nouveau. Sinon, effectivement, ensuite l'art déco, et puis évidemment le mouvement moderne qui présente aussi de grands ensembles à Alger, mais pas seulement à Alger. Donc effectivement, oui, il y a toute une série de... On retrouve toute l'histoire de l'architecture, en tous les cas, entre le début du 19e et la fin du 20e à Alger. Là, on a vraiment... Et parfois, même des quartiers entiers qui sont peu représentés en métropole et qu'on retrouve de façon exemplaire, enfin, dans des rues, notamment les grandes percées qui avaient été faites dans la Casbah.
Je suis sûr que Malik va vouloir ajouter quelque chose.
Pour répondre à votre question, l'architecture d'Alger répond aussi au mouvement, aux idées politiques. On est dans une ville coloniale, donc il y a à la fois l'influence politique. On a envie de faire d'Alger une ville européenne au début de la colonisation pour montrer la domination française et l'installation française. Il y a la période néo-mauresque qui correspond, il y a 70 ans de présence d'Algériens, de Français en Algérie, donc qui revendiquent leur identité et qui s'approprient les arts indigènes. Donc on a la naissance du néo-mauresque. Donc ça correspond à la fois à des influences stylistiques, mais aussi des idées politiques. Il y a un certain nombre d'architectes qui collaborent aussi avec des sculpteurs, des peintres pour la décoration de leurs immeubles, des céramistes. Donc effectivement, ça correspond à la fois aux grandes périodes qui existent, parce que Alger n'est pas détaché de ce qui se passe dans le monde entier. Donc il y a des circulations, des transferts d'idées. Ensuite, il y a forcément un phénomène d'appropriation.
Je rajouterais juste quelque chose qui nous a beaucoup étonnés, c'est la présence, l'omniprésence de l'architecture haussmannienne. Alors ça, on ne s'attendait pas du tout à avoir ces alignements d'immeubles de type haussmannien. Ça, c'est vraiment une spécificité.
Je crois qu'on a juste le temps pour une dernière question. ça va être compliqué. Allez-y.
Moi, c'est au niveau de la protection du patrimoine. Est-ce qu'en Algérie, il y a un système, comme en France, des monuments historiques, je crois que ça s'appelle, de classement, d'interdiction, etc., avec des inspecteurs, et ensuite, pour les privés, un système de subvention pour restaurer éventuellement, quoi. Je sais pas.
Oui, en effet, il y a un peu le même mode de fonctionnement, sauf qu'en Algérie, très peu d'édifices sont quand même classés. Alors, il y en a qui sont classés sur la liste de l'inventaire supplémentaire et d'autres sont classés qui ont un classement définitif. Alors, la loi algérienne 98-04 prévoit pour les édifices qui sont sur la liste de l'inventaire supplémentaire un classement sur une période de 10 années. C'est-à-dire qu'à la fin de ces 10 ans, l'édifice peut prendre, enfin, le bien culturel d'une façon générale, peut perdre son classement. Et ça, c'est peut-être l'une des faiblesses de la loi qui est en cours de révision actuellement et très probablement, c'est l'un des aspects qui va très certainement changer. En France, les édifices qui sont sur la liste de l'inventaire supplémentaire gardent leur... Je veux dire, il n'y a pas de... Ils ne sont pas limités dans le temps.
Et au niveau des subventions?
Alors, au niveau des subventions, la loi aussi prévoit un fonds, le fonds du patrimoine. Dans la réalité, je ne sais pas s'il a été mis en place et s'il fonctionne réellement. Je n'ai pas eu écho. Après, beaucoup de... Surtout quand il s'agit d'édifices publics, beaucoup reçoivent des fonds publics pour leur...
Très rapidement, ce qui est intéressant, c'est que l'Algérie a conservé le classement qui avait été fait par la France, donc des édifices antiques, etc. Donc il y a ce classement qui est conservé et que même s'il y a très peu encore d'édifices qui sont classés, mais un édifice, par exemple, comme la Grande Poste a été classé et c'est un édifice français classé, qui date de 1906. Donc si vous voulez, petit à petit, il y a un renouvellement du classement et ça se fera. En fait, on a juste... Il y a de la distance qui doit...
L'hôtel de Villa n'a pas été classé récemment, celui de Skipta a été classé.
Et bien sur cette note positive, on va arrêter là notre... c'est le temps est fini. Vous êtes invité à quitter la salle pour permettre au débat suivant ou à la présentation suivante de se tenir. Merci en tout cas d'être venu assister à cette présentation.